Besançon. Il est 3h15 du matin. Je me trouve actuellement au musée d'Orsay. Un informateur m'a récemment indiqué que des phénomènes très étranges s'y produiraient la nuit, en secret. Là-bas, ma foi, ça fait à peu près 8h30 que j'attends, hein. Caché derrière la poubelle de la cafétéria et mis à part 3 fourmis qui se battent en duel. Ah bah, il se passe pas grand-chose. Bon. Allez, il est temps de mettre la viande dans le torchon.
Oh là là là.
Oh, c'était peut-être pas une bonne idée, cette raclette.
Il y a quelqu'un ?
Arrêtez-vous!
Oh, purée! Oh, chaque étage, là! Oh, j'étais pas préparée! Oh, j'en peux plus!
La grande horloge?
Oh, mamma mia!
On dirait qu'elle va exploser!
Oh, on est en train de remonter le temps!
Novembre 1862. Un serpent de fer déchire la campagne. Là-bas, une ville apparaît, et devant elle, une gare. La gare se rapproche, et puis, un quai, une grande halle de fer. La halle se remplit de fumée, le train s'arrête, les portes s'ouvrent.
Gare Saint-Lazare, tout le monde descend! Terminus,
s'il vous plaît. Au milieu de la foule, Claude Moinet, 22 ans, barbe noire, pipe au bec, enjambe les sacs, les valises et contourne les embrassades.
Pardon.
Arrivé tout au bout du quai, il se retourne.
Ah, cette fumée blanche et bleue, cette petite locomotive noire au milieu.
Ouais, c'est pas mal.
Le voici dehors. Dehors, c'est Paris. En ces années-là, la capitale bouillonne. Allez, mettez-moi une calèche. Oh non, 2 calèches. Et puis, des lampadaires. Des fontaines. Des robes qui froufroutent. Oh, des passants qui se promènent. Et puis, ajouter des travaux. Oui, beaucoup de travaux. Voilà, c'est Paris.
Merci, merci. Oh, arrêtez, oh, c'est gênant. Merci.
Claude Monet, originaire du Havre, a quitté sa ville pour devenir peintre avec quelques recommandations de la part de son père.
Cette fois, tu vas travailler sérieusement, mon fils. Je veux te voir dans un atelier, sous la discipline d'un maître connu. Sinon, je te coupe les cheveux, les vivres. Tu m'entends ? Beaux-Arts, maître, atelier.
Les ateliers, c'est là que les jeunes artistes s'exercent. Ils se retrouvent chaque jour sous le regard d'un peintre reconnu pour peindre d'après des modèles vivants ou bien des spécimens. Ah, pas toujours très frais.
Prêté par l'école de médecine.
Quant à l'ambiance, ouais, je te laisse te faire ton idée. Hé, les gars, pourquoi le lapin est bleu? Parce qu'on l'a peint. Lapin. Lapin. Oui, ce n'est pas toujours très raffiné. Claude rejoint l'atelier de Charles Glaire. Professeur aux Beaux-Arts, le maître a la réputation d'être sage et bien rassis. Rassis comme le pain.
Si sa vision de la peinture n'est pas fraîche, je risque l'indigestion.
Touché. Les remarques de Charles Glaire semblent à Monet quelque peu... oui, périmées.
Monet, vous avez devant vous un homme qui a de gros pieds et vous les dessinez. C'est très laid.
Bah, il faut bien que je paye ce que je vois.
Eh bien non, tout faux. La peinture ne doit pas représenter la réalité. Peignez des personnages de l'Antiquité, grecque ou romaine, de grandes scènes historiques, mais par pitié, jamais la nature. Si vous ne suivez pas ces principes, jamais le jury ne sélectionnera vos œuvres pour être exposées au salon officiel.
À cette époque, la peinture est l'art numéro un. Chaque année, toute la ville se presse au salon pour découvrir les milliers de tableaux sélectionnés, accrochés bord à bord, sur des murs remplis du sol au plafond. Pour les peintres d'alors, c'est le seul lieu où montrer son travail. L'enjeu est énorme. À l'atelier de Charles Glaire, Claude se lie avec trois camarades qui, comme lui, ont la sensation d'étouffer. Ils s'appellent Alfred Sisley, Frédéric Basile et Auguste Renoir.
La barbe, l'Antiquité! On n'en peut plus, non? Et puis, toutes ces toiles peintes en atelier sont si sombres. Alors que là, regardez! Le soleil!
Dès qu'il le peut, Monet emmène ses trois camarades dessiner dans la forêt de Fontainebleau.
Avant, je faisais des caricatures. Et puis un jour, alors que je travaillais en plein air, pof! Révélation! Comme un voile qui tout à coup se déchire. La lumière qui jaillit.
Au printemps, Monet retourne au Havre. Il passe ses journées à marcher dans sa campagne normande.
Oh! Ah! Waouh! Le ciel, la mer, oh, les herbes folles! Oh, je deviens fou tellement j'ai envie de tout peindre! Yahoo! La tête m'embête!
Pendant ce temps, à Paris, le monde de la peinture est sans dessus-dessous. En 1863, le jury du salon, particulièrement sévère, refuse 3000 œuvres sur les 5000 présentées. Devant le tollé général, l'empereur Napoléon III autorise la tenue d'une deuxième exposition, quelques mois plus tard, le Salon des Refusés. Youpi ! Nous sommes le 15 mai 1864, la foule curieuse se presse. Parmi les visiteurs, il y a des journalistes.
Ridicule! Mais qu'est-ce que c'est que ces scènes toutes simples? Non, franchement, c'est une farce! Oh mon Dieu!
Une toile en particulier fait scandale.
Ouh!
Remboursé!
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 Bah enfin, vous n'avez rien payé?
Bouh!
Remboursé quand même!
Remboursé quand même!
Bref, il s'agit du bain par Édouard Manet, rebaptisé plus tard le déjeuner sur l'herbe. Attention, nous allons entrer dans la toile. C'est un après-midi, dans une petite clairière, au milieu d'une forêt. Sous les arbres généreux, deux hommes à moitié allongés dans l'herbe discutent. Ils ne sont pas seuls. Assise de profil à côté d'eux, une femme fixe le spectateur avec un air de défi. Elle est fière, elle est nue, entièrement nue. Sa peau blanche comme la lune illumine toute la scène. Les femmes nues, l'Académie des Beaux-Arts les tolère, mais seulement s'il s'agit de déesses, de personnages bibliques ou mythologiques. Avec son déjeuner, Manet ose peindre de façon extrêmement réaliste une simple mortelle dans le plus simple appareil, entourée d'hommes en train de pique-niquer. Oh, la vie, quoi! La toile choque, mais elle éblouit aussi. J'y vois rien, je suis éblouie. Bref. Pour les jeunes peintres comme Monet, Sisley ou Basile, c'est une révélation. Enfin, quelqu'un ose bousculer les codes poussiéreux de l'Académie des Beaux-Arts. Peu à peu, un groupe de peintres d'avant-garde se constitue autour de Manet. Ils fréquentent des ateliers différents, mais souvent le même troquet. Le soir, au café Gerbois, près de la place Clichy, on croise souvent Monet, Sisley, Basile, Renoir et bien d'autres peintres animés par la même soif. Je veux dire, le même désir de liberté. Edgar Degas, Gustave Caillebotte et parfois aussi Paul Cézanne, Camille Pissarro et Berthe Morisot, une jeune femme qui se bat pour exister en tant que peintre. Tous ces artistes ont des palettes et des styles très différents. Certains sont riches, d'autres pauvres. Ils ne peuvent pas toujours bien se sentir, mais la peinture les réunit. Ils se filent des coups de main quand il le faut, et puis ils cherchent de nouvelles formes. Ils discutent, ils peignent, ils peignent encore. Des cheveux bouclés, lisses, longs, bruns, roux, courts. Oh pardon, je m'égare. Des tableaux, hein, ils peignent des tableaux, bien sûr. Puisque le salon est l'unique voie, beaucoup continuent de tenter leur chance. Et ils ont chacun, oui, un rapport différent à l'institution. La scène se passe au Café Gerbois. Manet et Cézanne sont assis côte à côte. Ce qui est rare, hein, parce que Cézanne ne peut pas biffrer Manet. Enfin, bref.
Ah, Cézanne, qu'est-ce que vous préparez pour le salon?
Un pot de merde.
Ah oui, c'est une façon de présenter les choses. Ces peintres s'affranchissent de plus en plus des règles imposées par le salon. Ils veulent peindre avec sincérité ce qu'ils voient, la vérité de leurs sentiments. Ils s'intéressent à leur époque, ils peignent leurs amis, des scènes de la vie de tous les jours, des paysages mis en mouvement par la lumière. La lumière? Ah oui, c'est elle que cherche Monet, encore et toujours! Nous sommes en novembre 1872. Monet, au Havre, loge dans un hôtel face au port. Il est 7h30 du matin. Il ouvre ses fenêtres. Devant lui, le brouillard matinal chassé par le vent, l'eau qui rougeoie sous le soleil qui monte, les fumées d'usine, les barques qui partent. Monet se lance alors un pari fou, fixé sur la toile, un moment qui passe, des sensations, la beauté de l'air, bref, une atmosphère. Des heures durant, il tente de capter les reflets changeants de l'eau. Et là, cette drôle de buée qui enveloppe le soleil. La précision, il s'en fiche. Avec des petites touches de bleu, d'orange, il cherche une sorte de magie des couleurs.
Bon, on ne reconnaît pas trop le port du Havre. Disons que c'est une impression. Une impression soleil levant.
Monet, Manet, Pissarro, Morisot, Cézanne, Degas... Ah bah non, pas deux gars qui passent dans la rue. Deux gars, Edgar deux gars. Bref, invente peu à peu une toute nouvelle façon de peindre. Et au salon, ouh, ça ne passe toujours pas.
Bon, bah il ne nous reste plus qu'à exposer nous-mêmes et à faire une concurrence mortelle à tous ces vieux idiots bornes.
Mais oui, la voilà la solution. Exposer seul, sans jury. Le groupe s'organise. Pour l'instant, il ne se donne pas de nom et pas de règles non plus.
Messieurs, on ne peint pas avec des théories. Continuons de peindre simplement, en suivant chacun sa propre vérité.
Mais oui, oh, 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 c'est génial, mais oui, pas de règles, pas de nom. Oh là là, c'est génial, c'est absolument génial.
Oups, bon, bah, je crois que je m'emballe un peu là. Bon. La date d'ouverture de leur exposition est fixée au 15 avril 1874, soit 15 jours avant l'inauguration du salon officiel. Ça leur fera les pieds. Oh mon Dieu! Oh, que vois-je? Des visiteurs arrivent devant le 35 boulevard des Capucines. Ils sont venus s'encanailler devant les toiles de ces jeunes peintres qui passent pour de véritables rebelles. Ou bien, oui, des toqués pathétiques. La critique acide de Louis Leroy dans le journal Le Charivari dézingue le travail de Monet.
Impression, soleil levant. Impression. Mais j'en étais sûr, je me disais aussi, puisque je suis impressionné. Il doit y avoir de l'impression là-dedans. Oh non.
Le roi a intitulé son article « L'exposition des impressionnistes ». Impressionniste, ça y est, le mot est lâché. Et pour l'instant, il n'est pas très flatteur. Nos peintres, en tout cas, se sont surpassés. Plus de 200 œuvres sont exposées, signées Monet, Cézanne, Renoir, Morisot, Degas. Oui, ils sont tous là. Tous, sauf Basile, mort à la guerre en 1870, et sauf Manet aussi, mais pour des raisons différentes.
Mais pourquoi irais-je avec vous, les jeunes, puisque je suis reçu au salon officiel? Eh, le salon officiel, le salon officiel. Eh ouais.
Bon, mais le public alors?
Oh, regardez, on dirait que ce n'est pas terminé. Oh, et puis ces touches de peinture là, ça fait comme des pâtés. Oh non, 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 c'est franchement mal peint.
Oh purée, non, ils n'y comprennent rien. Seules 4 toiles sont vendues. cette première exposition est un véritable flop. Qu'à cela ne tienne, vaille que vaille, Monet, Degas, Cézanne, Morisot, Sisley, Pissarro poursuivent leurs recherches. Le groupe organisera 7 autres expositions indépendantes et finira par s'autoproclamer impressionniste, beau pied de nez lancé à celui qui avait tenté de les ridiculiser. En s'affranchissant des critères de l'Académie, chacun à sa manière a révolutionné la peinture et ouvert la voie à la modernité. Hein? Oh non? Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Ah, purée! Ah bah, il m'avait pas menti, cet indique, hein? Il s'en est passé de belles par ici. Une enquête s'impose. Une enquête impressionniste. C'est parti pour une nouvelle série d'Odyssées. Les Odyssées des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Yahoo! Derrière cet épisode, il y a Claire Levasseur, Basile Bocquer, Marion Lelay, Fanny Leroy, Elodie Fiat, Clarisse Horn, les équipes du musée d'Orsay et moi, leur grand Besançon. L'impressionnisme s'est aussi développé grâce aux progrès techniques. Dans les années 1860, peindre dehors, c'est tout nouveau. Les tubes de peinture qui permettent de transporter les couleurs viennent en effet d'être inventés. Ce qui est rudement pratique, hein, pour peindre, comme on dit, sur le pif, sur le vif. Les Odyssées des musées d'Orsay et de l'Orangerie est un podcast original de France Inter.